RCF.
François Bellec, on l'a vu, les Portugais dominent la navigation au 15e et 16e siècle. Pourtant, les Espagnols ne vont pas être en reste et rapidement vont eux aussi devenir des précurseurs, en tout cas des rivaux pour les Portugais.
En fait, quand le Portugal a fait tout le travail, il a eu tous les courages, il a dégonflé les mythes, il a franchi tous les obstacles, il a inventé la navigation. Et puis finalement, il y a deux hommes qui vont tirer la couverture. L'un, c'est Colomb et l'autre, c'est Magellan. Et tous les deux, ayant proposé leur service au Portugal, ont fini par faire ça pour le roi d'Espagne. Et finalement, les uns n'étaient plus à découvrir puisqu'on les connaissait. La route des Indes, ça a été très pénible, mais c'était pas une découverte. Alors que Colomb tombe accidentellement sur l'Amérique et que le voyage de Magellan se termine par un tour du monde. Donc tout ce qui est médiatique, c'est devenu espagnol. Alors, Christophe Colomb, en fin de compte, bon, on le sait, il est né à Gênes en 1451. Il a appris à naviguer chez les Catalans à Barcelone. Et puis il est arrivé au Portugal dans des drôles de circonstances. D'ailleurs, il y a un trou dans la vie de Colomb. Enfin, il arrive au Portugal en 1478. Il s'installe avec son frère qui est déjà là à Lisbonne, ils sont cartographes. Colomb est un type tout à fait passionnant, c'est un homme qui est d'une très grande culture, parlant plusieurs langues, lisant tout ce qui peut se lire sur les découvertes. Sa bibliothèque est considérable. Et il se met à imaginer, un peu en accord avec le Paolo Toscanelli, qui est un savant italien, l'idée que, puisque la Terre est ronde, on peut en faire le tour, ce qui paraît tout bête et tout simple. Une fois, quand on réfléchit maintenant aux grandes découvertes, il faut se remettre dans l'esprit de l'époque, parce que si on essaie de raisonner maintenant, les choses sont difficilement compréhensibles. Et donc, il dit, puisqu'on veut faire le tour, il y a en plus les écrits du cardinal d'Ailly, tout le monde est assez d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire le tour. Donc, il va proposer ça à Jean II du Portugal, qui est probablement le seul souverain capable de discuter avec Colomb, parce que le Portugal est très en avance. À cette époque-là, le Portugal est déjà dans l'hémisphère sud. Il n'est pas encore arrivé au Cap de Bonne-Espérance, mais enfin, il maîtrise les océans. Et donc, le roi du Portugal lui dit, vous avez raison, mais enfin, cette alternative d'aller vers l'ouest, c'est une sorte de privatisation de l'ouverture de la route maritime des Indes. C'est une affaire d'État au Portugal, c'est très sérieux, c'est une affaire dans laquelle le roi est impliqué. Donc, Colomb est un aventurier un peu dérangeant. L'idée de Colomb, c'est qu'en plus, si on fait le tour par l'ouest, bien d'après ce qu'on sait de la cartographie du monde, on va passer le long de la Chine, puisque logiquement, comme on ignore l'Amérique, qu'est-ce qu'on trouve à l'ouest de l'Atlantique? C'est la Chine. Et donc, cette possibilité d'arriver aux îles Moluques en longeant la Chine, c'est quand même une route bien plus intéressante que cet interminable tour de l'Afrique. Donc, l'idée de Colomb est très séduisante. Elle est refusée par Jean II. Mmh. Colomb passe en Espagne, il arrive à Séville en 1485, et attend un peu pour être reçu par les rois catholiques, qui va avoir une audience l'année suivante. 1486, il propose son idée aux rois catholiques. Ferdinand d'Aragon, ça n'intéresse pas du tout. Isabelle de Castille, elle, trouve que c'est une superbe idée. Mais l'Espagne est engagée dans la reconquête sur les Arabes. Les Arabes sont quand même là depuis 741, quand Tariq a franchi le détroit de Gibraltar, Jebel al-Tariq, la montagne de Tariq. Et ils sont engagés dans cette reconquête. L'Espagne n'a pas les moyens de financer une grande aventure comme celle-là.
Pourquoi voulez-vous naviguer vers l'ouest?
Pour ouvrir une nouvelle voie vers l'Asie. L'Asie est le plus riche des royaumes, la terre des épices et de l'or. Pour le moment, il n'y a que deux moyens d'y parvenir. Par mer, en contournant le continent africain, c'est un voyage d'un an, ou par terre. Mais les Turcs ont fermé cette voie à tous les chrétiens. Il existe une troisième route. Faire voile vers l'ouest en traversant la mer Océane.
RCF, la suite de l'histoire.
Colomb se prépare donc à repartir chercher un autre souverain. Il va aller vers la France ou l'Angleterre. Quand, divine surprise, en 1492, c'est la chute de Grenade. C'est la fin de la reconquête. Les Arabes sont définitivement chassés d'Espagne. L'Espagne peut penser à un nouveau dessein. On rappelle Colomb et Isabelle réussit à convaincre Ferdinand de confier une expédition à Colomb. Donc Colomb va partir avec la simple idée d'arriver aux îles Moluques, les îles des épices, de la soie, de la cannelle, du girofle, par l'ouest, si possible en longeant
Les côtes chinoises.
Les côtes chinoises, on va rencontrer le crâne. Il a une lettre du roi pour l'empereur de Chine. Et en plus, Toscani lui a promis une île, Cipango, Marco Polo, qui a passé 25 ans en Chine au service de l'empereur, qui a été un peu un envoyé ou une sorte d'inspecteur de l'empereur de Chine, a parlé de tout ce qu'il avait vu, puis aussi de ce qu'il n'avait pas vu. Ce qu'il n'avait pas vu, c'était Cipango, qui est le Japon, où les palais ont des toits d'or, et il y a de l'or tellement partout qu'on se ne baisse même plus pour le ramasser. Donc l'idée de passer par Cipango, c'est absolument formidable. Et donc on s'en va, et puis ça va très mal se passer.
On pense que la Chine est près de l'Europe.
Ah ben tout à fait, ben, alors, au point que l'Amérique du Nord
par
sera
le côté ouest,
très longtemps prise pour la Chine, et sur les cartes, l'Amérique du Nord sera toujours la Chine. Donc quand Colomb arrive à toucher les Antilles, les Bahamas, ben pour lui, il est manifestement en Chine. Il ne peut pas être ailleurs qu'en Chine. Les îles des épices, il ne sait pas où elles sont, mais tout ce qu'il voit, cette terre, c'est forcément ça. Alors l'ennui, c'est que faire coïncider des peuplades de pauvres qui vivent dans des paillotes misérables avec les paléotois d'or, ça colle pas très bien. Et donc, Colomb va chercher comme un malade, pendant 4 voyages successifs, à arriver à la fois aux Moluques ou arriver à Cipango. Le premier, c'est 1492-1493. Il revient triomphant en disant « ça y est, je suis arrivé ». Il ramène un tout petit peu d'or qu'il a récupéré au nez, aux oreilles des naturels. Mais il dit, l'or, en fait, c'est un hâbleur, Colomb. Il dit, l'or, je suis sur la route, je vais le trouver. Les perles, on ne saura plus où les mettre. Il dit même, j'ai pas voulu ramasser des perles parce que, écoutez, il dit à Isabelle de Castille, quand vous en voudrez, je vous en chercher. J'ai pas voulu perdre de temps. Mais vous inquiétez pas, il y en a partout. Bon. Il va retourner en 1493-96. Et là, pour ce qui montre bien l'état d'esprit de l'époque, en longeant la côte de Cuba et sans avoir fait le tour de l'île, il fait jurer par ses capitaines et par ses notaires et par ses pilotes que Cuba est la terre ferme. C'est-à-dire qu'il fait jurer qu'ils ont atteint la Chine, alors qu'il n'a même pas fait le tour de la question. Le quatrième voyage, en 1498-1500, il va toucher là le nord de l'Amérique du Sud, et devant le fleuve Orénoque, qui met beaucoup d'eau douce, il dit « mais ça c'est le paradis terrestre, il y a 3 fleuves qui coulent du paradis terrestre, toute cette eau douce, je sens bien que j'approche du paradis terrestre, c'est même dangereux parce que je risque quand même d'aller un peu dans les secrets des dieux ». Et puis enfin, il en fait un dernier voyage épouvantable en 1502-1504, il va longer toute l'Amérique centrale à la recherche de ce passage qui doit exister quelque part, et sans arriver à trouver. Alors le malheur, c'est que Colomb, qui est le seul navigateur qui a eu une idée personnelle et qui l'a suivi jusqu'à son terme, il faut dire qu'avant de partir, son projet avait été soumis par Isabelle de Castille à une commission comprenant des amiraux, des astronomes, des théologiens, pour savoir si l'idée de Colomb qu'on pouvait faire le tour de la Terre était valable. La commission s'est réunie pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, au bout de 4 ans, elle a conclu que saint Augustin disant dans la Cité de Dieu qu'il n'est pas possible de passer d'un hémisphère à l'autre, l'idée de Colomb n'était pas recevable. Et donc Colomb allait quitter l'Espagne comme ça, quand la chute de Grenade a relancé le projet. Donc voilà, en fait, Colomb a eu des idées fulgurantes par rapport à celles de son temps.
Mais vous considérez que c'est un échec?
C'est un échec parce qu'il voulait arriver en Inde et puis il n'a jamais touché l'Amérique. Il n'a jamais mis le pied en Amérique. Il a trouvé un continent sans savoir ce que c'était. Continent qui sera d'ailleurs quelques années après baptisé accidentellement du nom d'Amerigo Vespucci par la suite d'une erreur de cartographe à Saint-Dié. C'est en France qu'on a trouvé le nom Amérique. On voulut éditer une nouvelle carte de Ptolémée en lui rajoutant les découvertes de Colomb. Et on était persuadé à ce moment-là que l'Amérique du Nord, c'était la Chine, et l'Amérique du Sud, c'était un quatrième continent, inconnu et nouveau, qui allait équilibrer la Chine comme l'Afrique équilibre l'Europe. Et donc, pendant très longtemps, ça a figuré comme ça sur les cartes, avec toujours l'espérance d'un passage entre les deux. Donc, c'est à Saint-Dié qu'on a eu l'idée, parce que Amerigo Vespucci, qui travaillait pour les Médicis, a fait 4 voyages aux Amériques, 2 sous pavillon portugais, 2 sous pavillon espagnol, et qu'il a écrit dans une lettre aux Médicis, mais sans y penser, en disant « j'ai vu un monde nouveau ». voulant dire dans son esprit, j'ai pas découvert un monde nouveau, mais ce que je vois, personne l'a vu. Ça tombe sous les yeux de ces cartographes qui disent, bah, il a vu un monde nouveau, Mundus Novus, c'est formidable, et donc ils appellent ce quart continent America, du nom d'Amerigo Vespucci. Voilà. Donc Colomb a eu tous les échecs, et même l'Amérique porte pas son nom. Et en plus, ce malheureux, bien, il est mort pas en disgrâce, mais quand même très dévalorisé, avant que l'on trouve le nouvel Eldorado, que l'on trouve les mines d'or et d'argent du Pérou et du Mexique.
C'est quand même une découverte extraordinaire, malgré tout.
Ah ben, c'est une découverte
extraordinaire.
C'est parce que lui n'en a pas profité, dans la mesure où, jusqu'à sa mort, on n'a pas finalement compris que c'était la portée de sa découverte.
Est-ce qu'il a, du point de vue de la navigation, utilisé des techniques nouvelles?
Non, il a utilisé les techniques portugaises. Je dirais même qu'il naviguait pas très bien. Enfin, je veux pas démolir Christophe Colomb. Enfin, il avait beaucoup de défauts. Ce n'est pas un navigateur extraordinaire. Sa traversée, j'ai souvent dit méchamment, parce que moi je suis très attaché au Portugal, que entre les voyages des Portugais aux Indes qui pouvaient durer 6, 7, 8 mois sans escale, et la traversée vers les Bahamas, qui était vraiment une sorte de croisière aux Bahamas, il n'y avait pas photo. En fin de compte, c'était quand même plus facile de traverser à cet endroit-là. Mais tout le mérite de Colomb, je dis, c'est d'avoir eu cette idée qu'on peut faire le tour de la Terre et de l'appliquer jusqu'au bout.
Donc le mérite est plus du point de vue de l'idée que de sa réalisation.
Oui, voilà. Et moi, je suis pas un Colombien convaincu, mais je le cite toujours comme le plus grand des navigateurs, le seul qui a eu une idée personnelle. Tous les autres, ça a été des opérations d'État.
Merci et à demain, François Bellec, pour terminer.